L'EM, l'émission, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, envers et contre tout, en direct à midi, rediffusé à 18h, en compagnie aujourd'hui des serpents, des amphibiens, des lézards et d'autres encore. Bref, ce qui n'a en gros ni plumes ni poils, les naturalistes spécialistes de ces animaux sont les herpétologues. Rien à voir avec une spécialité médicale. L'herpétologie, c'est justement l'actualité pour l'association Bretagne Vivante que nous recevons aujourd'hui, qui co-gère avec une autre association un nouvel observatoire régional. Donc avec nous, il y a un naturaliste de Bretagne Vivante, Stéphane Weiss. Bonjour.
Bonjour, Stéphane Visa.
Visa, pardon, je suis désolée.
C'est pas grave.
Bon, on va essayer d'être plus précis maintenant. Sur l'herpétologie, je l'ai dit rapidement, mais quels sont les animaux concernés? Où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça commence en gros?
Bah, comme vous l'avez dit, l'herpétologie, c'est une branche de l'histoire naturelle qui s'intéresse aux reptiles et aux amphibiens. Les reptiles, ça dépend à quelle échelle on se place, mais si on se place à l'échelle de la Bretagne, même historique, en rajoutant la Loire-Atlantique, on a à peu près 11 espèces de reptiles. Et puis 18 peut-être amphibiens. Alors après, si on réduit l'échelle et on s'intéresse juste à ce qui se passe dans le Finistère, il y a moins d'espèces parce que là il y a des barrières climatiques qui se mettent en place et des espèces qui sont quand même un peu thermophiles et qui supportent moyennement le climat océanique, on va dire. Donc la voile se réduit et on a peut-être 7 espèces de reptiles et une douzaine d'espèces de batraciens dans le 29.
Ouais, alors sur les noms, parce que en fait, je crois que la notion de reptile, si on est vraiment scientifiquement strict, ça n'existe plus tellement, apparemment. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on entend par reptile? C'est quoi, les serpents et les lézards?
Ben, en fait, on entend par reptile la même chose qu'on entendait avant la révolution qui a été enclenchée par la nouvelle classification. Donc le mot, il continue à désigner les serpents, les lézards. Et puis bah, les tortues, parce qu'il y a une espèce de tortue terrestre, ça en fait partie. Après, il s'avère que ce groupe des reptiles, d'un point de vue, mais là c'est quand on fait de la systématique, quoi, quand on fait de la classification, il a plus grand sens, parce que les crocodiles sont des reptiles, mais ils sont plus proches des oiseaux que du reste des serpents et des lézards. Alors si on veut garder le terme reptile, il faudrait intégrer les oiseaux. Alors du coup, appeler des oiseaux reptiles, c'est un peu bizarre. Enfin bon, voilà, c'est pour ça que scientifiquement, le terme, il a plus beaucoup de valeur. Mais dans la conversation de tous les jours, ça continue à désigner ce que ça désignait avant. C'est pareil que les poissons, les invertébrés, normalement, c'est des mots qu'il faudrait bannir. Dès lors qu'on parle dès lors qu'on fait de la phylogénie, quoi, c'est-à-dire cette classification qui tient compte de l'histoire évolutive des espèces, mais on continue à aller chez le poissonnier, quoi. Voilà, il y a pas de souci.
Mais l'herpétologie, c'est une, je sais pas depuis quand ça existe. D'ailleurs, cette spécialité de naturaliste, elle étudie quels animaux. Enfin, elle s'arrête où justement?
Les amphibiens et les reptiles. Voilà, c'est-à-dire en Bretagne, ça concerne les serpents et les lézards. Quelques tortues. Alors nous, dans le cadre de notre travail, on s'intéresse moins aux tortues marines. On s'intéresse plus à la faune terrestre, à l'herpétofaune terrestre. Et puis les amphibiens, il y a deux groupes dans les amphibiens. Il y en a un qu'on appelle les urodèles, donc ce sont les salamandres et les tritons. Et il y a une espèce de salamandre et plusieurs de tritons. Et puis, il y a aussi les anours, qui sont les crapauds et les grenouilles.
Et c'est quoi, sinon, qui les différencie dans leur mode de vie entre les deux catégories d'amphibiens?
Dans leur mode de vie, il y a pas mal de similitudes. C'est des espèces qui sont dépendantes du milieu aquatique pendant la phase de reproduction et qui quittent, en général, Après, il y a des variantes hein, selon les exigences de chaque espèce, mais en général, il quitte le milieu aquatique entre deux périodes de reproduction qui a lieu sur la période mars-octobre, ça dépend aussi des espèces, pour regagner des habitats terrestres pour le reste de leur cycle annuel. Quoi. Donc, y a, alors après, de visu, ben, les tritons et les salamandres, ils ont au stade adulte une queue assez proéminente, assez longue. Ils ont quatre pattes de taille égale. Tandis que, bah voilà, je ne vais pas expliquer comment on reconnaît un crapaud et une grenouille, tout le monde est au courant, mais la morphologie est un peu différente chez les anours.
Et sinon, ce que leur point commun entre les amphibiens et les serpents ou les lézards, ça serait...
Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Pardon ?
C'est le fait qu'ils seraient à sang froid, par exemple, c'est quoi le...
Bah ça en fait un, ça fait partie d'un point commun. Mais globalement, si on en revient à des notions de classification scientifique, il y a pas beaucoup de similitudes en fait entre les deux groupes. Mais d'un point de vue de l'usage, on a l'habitude de les traiter ensemble, quoi.
Bon, très bien. Alors, il se trouve que la région Bretagne s'est dotée d'un observatoire de l'herpétologie. Alors, je suppose qu'il y avait des observatoires pour d'autres animaux avant, c'est ça ?
Oui, et même la flore. En fait, l'observatoire herpétologique de Bretagne, c'est le dernier né des observatoires. Il est tout récent. Avant, il y en a qui existent encore hein, et qui sont consacrés à la flore, aux invertébrés terrestres aussi. Il y en a un sur les oiseaux, il y en a un sur les mammifères, il y en a un sur les poissons migrateurs même. Lui, c'est le dernier né, donc ça doit être le sixième, si je compte bien.
Et donc, il a été confié à Bretagne Vivante et à une autre association qui s'appelle Vive Armor. Pourquoi déjà se doter d'un observatoire de l'herpétologie en Bretagne ?
Alors, en fait, à l'échelle de la région, l'objectif de l'observatoire, c'est de développer la connaissance, de continuer à développer la connaissance sur ces groupes-là, et puis de partager cette connaissance et de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est un peu ça l'idée, donc d'avoir une entité qui mutualise un petit peu les travaux des uns et des autres qui valorise la connaissance engendrée en la rendant accessible par des publications, par des plaquettes, des choses comme ça, des articles. Et puis derrière ça, de la part de la région, il y a l'objectif d'identifier un peu les réservoirs de biodiversité, puis les réseaux écologiques pour inclure les batraciens et les reptiles dans des réflexions de politique territoriale et d'aménagement de l'espace, etc. C'est la fameuse trame verte et bleue, quoi. Qui est un peu l'histoire. L'idée c'est de faire en sorte que ces espèces dont on connaît la fragilité, dont on sait qu'elles sont celles qui sont menacées, de les intégrer dans des schémas d'aménagement, quoi.
Et comment vous allez procéder ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, vous, Bretagne Vivante ou l'association Vive Armor ?
On va travailler ensemble déjà, et puis avec d'autres structures aussi, hein, au Rivière, la LPO, les CPIE, pour mettre en place un réseau et nous réunir pour échanger sur l'herpétologie et dynamiser un peu les échanges. On va aussi animer les réseaux naturalistes qui existent. Hein. Il y a plein de naturalistes sur le territoire qui font des observations, qui saisissent leurs données dans des bases. Mais peut-être que ça manque un peu de lien en fait pour rendre leur travail plus visible, quoi. Voilà, on va aussi définir des priorités d'action en matière d'acquisition et de diffusion des connaissances. On va faire de l'expertise, en fait. On va alimenter les gestionnaires d'espace avec tout ce qu'on apprend, les gestionnaires d'espace naturels, ou les administrations des communes. Enfin, bon, voilà, on va essayer de porter la voix des reptiles et des amphibiens en Bretagne pour améliorer leur sort qui, des fois, reste précaire, quoi. Et puis, ben, faire des enquêtes, des supports de communication, organiser des conférences. Enfin, bon, il y a plein de pistes possibles.
C'est combien de personnes un observatoire comme ça, naturaliste en général, enfin.
Bah c'est pas énorme hein, parce qu'en fait on c'est jamais assez d'ailleurs. Nous on y consacre pas tout notre temps, hein, on fait d'autres choses. Et puis alors on a il y a un coordinateur régional, c'est une personne. Et puis après on a des coordinateurs un peu départementaux, donc on est quatre ou cinq. À travailler vraiment au sein de l'observatoire et à essayer de répondre à tous les objectifs dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est un bon début, mais on pourrait être plus. Hein.
Après, il y a les bénévoles qui vont faire les observations sur le terrain, je suppose.
Oui.
C'est ça.
Ah oui, voilà, oui. Ah oui. Moi, je parle un peu de l'arrière-boutique, quoi, des salariés qui ont un peu de temps pour travailler là-dessus. Après, il y a énormément... Oui, l'activité bénévole, elle est essentielle et elle est riche, quoi. Et on a des outils aussi qui permettent déjà aux bénévoles d'échanger et de saisir leurs observations. Il y a un portail qui s'appelle Faune Bretagne qui est très important dans cette logique-là, dans cette machinerie-là, qui permet à chacun de saisir ses observations naturalistes. Nous, on récupère les données derrière, et puis on peut générer de l'analyse et de l'expertise. Et puis, il y a un forum aussi qui existe, où les naturalistes échangent. Mais on va essayer de lancer des enquêtes, enfin, on va lancer des enquêtes participatives aussi, pour faire encore participer plus de monde, pour récupérer des informations, quoi.
Oui, parce que j'ai dans l'idée, peut-être me tromper, que ce qui est reptiles et amphibiens et même les tortues, c'est pas les animaux forcément les plus aimés, les plus appréciés. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux oiseaux, par exemple, oui. Et je rencontre rarement des gens qui se passionnent pour les lézards, les grenouilles, les serpents.
Bah oui, la discipline naturaliste la plus suivie et la plus riche de bénévoles, c'est l'ornithologie. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Moi, je m'intéresse aux batraciens reptiles et je m'intéresse aussi aux invertébrés. Et je me rends compte qu'il y a moins de monde, alors qu'il n'y a pas moins d'espèces, forcément. Enfin, en ce qui concerne les invertébrés.
En fait. Oui. Vous pourriez nous donner envie, justement, d'observer, ben, par exemple, je ne sais pas, choisissez un. Pas encore le crapaud à litre, on en parlera tout à l'heure, mais un autre, je sais pas, un serpent par exemple.
Oui, hier matin j'étais à Plougastel, je fais un suivi de sur les reptiles, et puis j'ai observé deux vipères péliades, et ça c'est un moment qui reste toujours un peu magique. Alors c'était pas les premières vipères péliades que j'ai eues de ma vie, mais à chaque fois il y a un truc qui se passe, quoi. Et en fait c'est sûr que c'est des espèces qui sont mal aimées, ça je pense qu'on peut encore le dire. Il y a une peur en fait qui est aussi liée à l'observation de ces animaux-là. Il se passe un truc et on a bon voilà. Toutes les vipères, moi, que j'ai observées hier comme avant, j'ai jamais eu aucun souci et je me suis jamais fait ni attaquer ni mordre. Et les espèces sont peinards, paisibles et quand elles veulent arrêter la rencontre, elles s'en vont, quoi. Voilà, mais les observations de reptiles, c'est toujours des moments assez incroyables, ouais.
Et puis c'est des animaux qui sont utiles, on peut peut-être le rappeler, les serpents, quel est leur... Enfin, ils sont tous utiles, les animaux, on sait bien, mais quelle est leur fonction dans la chaîne alimentaire, par exemple ?
Oui, c'est ce que j'allais dire, la notion de utile, nuisible, on l'a un peu dépassé aujourd'hui. Ceci étant dit, ce sont des prédateurs, les reptiles et les batraciens aussi, qui sont complètement intégrés aux chaînes alimentaires, et aux relations trophiques en fait entre les espèces, qui ont leur place dans les écosystèmes. Ce sont aussi des sentinelles environnementales, alors c'est-à-dire des espèces indicatrices. Par exemple, je parlais de la trame vertébleue en introduction, Et la vipère Péliade est une...
Ce que c'est la trame verte et bleue, c'est un couloir, en fait. Ce sont des couloirs écologiques qui permettent aux espèces animales de circuler, de se reproduire.
Oui, voilà, l'idée c'est de faire en sorte que les réservoirs de biodiversité soient reliés entre eux par des corridors écologiques qui peuvent être vertes. Alors, on pense à des haies ou à des réseaux de prairies, ou bleus, plutôt pour le versus milieu aquatique, quoi. Et voilà. Et donc la vipère Péliade et les serpents en général et les batraciens aussi sont des espèces qui se déplacent peu, hein, moins qu'un oiseau. On comprend aisément pourquoi. Et qui du coup eux sont très dépendants de d'une trame verte et bleue de qualité, quoi. Alors là je généralise, hein. Après il y a des on pourrait être plus concis, plus précis plutôt. Mais la vipère Péliade, c'est vraiment une espèce guide, une espèce indicatrice, une espèce, comment dire, une espèce un peu sentinelle. Parce que pour que les populations de vipères puissent continuer à se rencontrer puis à se brasser un peu génétiquement, bah, il faut qu'il y ait une trame verte et bleue un peu de qualité. Donc c'est intéressant de les observer, de les étudier pour comprendre un petit peu comment ça se passe. La vipère Péliade, par exemple, c'est une espèce très, très territoriale. Les mâles se déplacent un peu pour aller à la rencontre des femelles, mais les femelles, une fois qu'elles sont installées sur un talus, elles n'en bougent plus de leur vie, quoi. Et voilà, alors que la couleuvre qu'on appelait avant à collier, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant la couleuvre helvétique, elle est très mobile, quoi. Voilà, donc chaque espèce a ses spécificités écologiques, mais globalement, ce sont des espèces aussi intéressantes à étudier pour ça. C'est parce qu'elles nous renseignent en fait sur la qualité des habitats, quoi.
Et les vipères Péliades, elles mangent quoi en général ?
Ah ben, les vipères Péliades, c'est une bestiole qui se nourrit de micro-mammifères, quoi, essentiellement. Les laits bocagères avec des noisetiers, il y a en général des mulots. Et puis aussi, si les lisières sont suffisamment denses pour assurer des refuges possibles faciles à l'animal, avec en même temps des places où elle peut s'insoler, où elle peut prendre le soleil, eh ben, y a toutes les chances d'avoir des vipères Péliades. Ouais, c'est connecté aux populations de micro-mammifères. Ouais.
Et donc pour un agriculteur, c'est utile d'avoir une vipère Péliade dans les parages pour manger les mulots qui s'attaquent aux récoltes. Mais c'est marrant. Les vipères, c'était des animaux qui étaient très mal aimés. Enfin, pendant un moment, on donnait des récompenses à qui tuait des vipères, le plus de vipères. C'est ça, ça a changé.
Bah, ça a changé depuis le début de l'année. Ça a changé d'un point de vue, comment dire, légal, par un arrêté ministériel à l'échelle nationale. Les deux espèces de vipères qui étaient jusqu'à présent encore protégées partiellement, c'est-à-dire que on pouvait pas les maltraiter, on pouvait pas les, comment dire, les blesser, on pouvait pas les naturaliser, on pouvait pas on ne pouvait plus les prendre, les colporter, les mettre en captivité ou les torturer, mais par contre, on pouvait encore les tuer. Et ça, c'est ce qui s'appelle une protection partielle. Et en fait, depuis le début de l'année, la protection est devenue intégrale, au même titre que les autres espèces de batraciens et de reptiles. Les vipères sont protégées intégralement depuis quelques mois. Voilà, et ça, c'est une avancée majeure, en fait, pour ces deux espèces-là, la vipère aspic et la vipère Péliade.
Et justement, ça nous amène à cette question. Évidemment, si on fait un observatoire, et vous l'avez dit, c'est parce que les espèces sont assez menacées. Alors, ça doit être différent selon les espèces, mais comment vont, en gros, les serpents, les lézards, les grenouilles, les crapauds, salamandres et tritons ?
Eh ben, je vais pas être très optimiste. Bon, en fait, c'est un peu compliqué de répondre précisément parce que c'est un groupe d'espèces là dont on parle. Donc, ils ont chacun leur petit malheur, leur petit souci. Mais globalement, c'est un peu pareil que pour les autres groupes d'animaux, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des espèces qui sont peu exigeantes d'un point de vue écologique, qui peuvent se maintenir dans des endroits assez différents, et ben elles s'en sortent, quoi, moins de de façon moins compliquée que les autres. Et les espèces qui sont, elles, exigeantes, eh ben, elles ont beaucoup de mal, quoi. Et alors, ben, les principales menaces qui pèsent sur elles, ben, on peut faire un espèce d'inventaire à la Prévert, mais c'est la destruction du bocage, en fait, hein, l'arasement des haies, il continue, on rectifie les ruisseaux, on draine des prairies humides. Forcément, la grenouille rousse, par exemple, elle pond dans les prairies humides, quoi. Donc, si on draine ces prairies, eh ben, on altère, on dégrade, on abîme ses sites de reproduction. En plus, la chimie dans l'agriculture, mais aussi dans les jardins, enfin, tout ce qui est phytosanitaire, ça les impacte directement parce que ben, les amphibiens se nourrissent d'invertébrés. Donc, on comprend facilement le lien. Il y a les habitats ben, qui sont, sans parler du bocage, hein, d'autres habitats peuvent être détruits. Alors on prend des carrières par exemple qui sont des refuges pour des amphibiens qui en fin d'activité sont comblés, des mares qu'on détruit. Enfin, il y a tous ces enjeux-là. Il y a la gestion des espaces un peu communs aussi. Je pense au bord des routes, quoi. On se rend pas compte, mais on passe notre temps à faucher de façon radicale les bords de route, alors qu'une meilleure stratégie en fait permettrait de mieux préserver ces bestioles-là, de faire moins de dégâts et tout en garantissant une sécurité maximale pour les automobilistes. Donc il y a un gros boulot à faire de ce point de vue-là. Et puis on peut rajouter les chats, qui sont pas les amis des reptiles et des batraciens. Il y a pas mal d'espèces qui souffrent de prédation par les chats, et c'est notamment le cas du lézard des murailles en ville. Il y a des secteurs urbains où l'espèce a complètement disparu parce que les chats ont pris le pouvoir. Enfin bon, voilà, il y a quand même pas mal de soucis, hein, mis bout à bout.
En effet. Alors donc, pour protéger ces espèces, le mieux, c'est de les connaître. Et par ailleurs, vous relayez une enquête participative sur le crapaud halite accoucheur. On va d'abord l'écouter, oui, car c'est assez surprenant. Alors, c'est un son qu'on doit à l'audio-naturaliste Fernand de Roussin, dont vous pouvez réécouter l'interview. On avait réalisé une interview dans l'émission Ribine. Et Stéphane Wiza, donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette halite accoucheur et de l'enquête participative ?
Bah, bien sûr, c'est une enquête participative que l'Observatoire non seulement relaie, mais a initiée. Le chant, les batraciens chantent, en fait. Enfin, les batraciens, les anours chantent, pas les urodèles.
Pas les tritons ni les salamandres.
Voilà. Oui, voilà. Mais alors, du coup, le chant de l'halite, il est facilement reconnaissable, en fait. Hein. Il est très, très aisément identifiable. Il chante.
Comment il fait ce petit son flûté, là ? Comment il produit ça ? Avec quel organe ?
Ah ben, il a des sacs vocaux, en fait, hein, comme pas mal de batraciens. Et qui sont dans la bouche, quoi. Et voilà, c'est de là où ça sort. Et en fait, ce sont les mâles qui chantent, hein, comme c'est pas les femelles. Les mâles chantent. Et la particularité de l'halite, c'est que alors c'est un petit crapaud, hein, je l'ai pas dit. Ça fait 3-5 cm de. C'est beaucoup plus petit que le crapaud, que notre gros crapaud classique, qui s'appelait le crapaud commun et qui est devenu le crapaud épineux. Encore une. Un petit tour des taxonomistes. Et donc ce petit crapaud halite, il est étonnant parce qu'il chante d'endroits où on s'attend pas forcément à entendre un batracien. En fait, il est dans des milieux secs, quoi, et voire minéraux. Il chante un petit muret en pierre. Je l'ai même vu sur des bases géotextiles dans des pavillons. Il utilise des endroits assez surprenants, mais secs et en dehors des zones inondables, quoi. Voilà. Mais par contre, il faut que dans un rayon de de 100 à 200 mètres autour, il y ait un point d'eau, un bassin, une mare, même un petit ruisseau avec un courlan, et voilà. Et pour que le mâle puisse aller déposer les œufs, parce que la particularité de l'espèce, c'est que le mâle chante, la femelle arrive. Après, il y a un amplexus. Alors, ce n'est pas un accouplement chez les batraciens. La fécondation, elle est externe. Donc, le mâle, il maintient la femelle par les aisselles. Et la femelle largue sa ponte, qui est en chapelet, en fait, pour les crapauds. Et le mâle la féconde en même temps, et tout en la fécondant, donc de façon externe, et tout en la fécondant, il se la noue autour du dos et des pattes postérieures. Et donc il garde son chapelet d'œufs, ouais, et il garde son chapelet d'œufs sur le bas du dos.
Et transporte.
Ah ouais, ouais. Et il continue à chanter, il peut se reproduire, récupérer un autre chapelet d'œufs d'une autre femelle, enfin bon, voilà. Et il déplace ses œufs. Et quand il est quand c'est un peu trop sec, il va les mouiller et revient dans son abri terrestre. Alors en Bretagne, ça lui arrive pas trop souvent ça. Et puis bah au moment de l'éclosion des têtards, et ben il va à l'eau et les têtards sortent directement de son chapelet et vivent leur vie de têtard de façon plus traditionnelle, on va dire pour un crapaud quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment très particulier la reproduction de la lite. Et du coup, c'est une espèce qui se déplace pas beaucoup, qui est très sensible à ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Et alors c'est le même principe que pour la trame verte et bleue en fait. Hein, voilà, les populations sont isolées les uns des autres, ont du mal à se rejoindre, et du coup, quand une population disparaît, parce que on a recimenté le muret ou parce qu'on a comblé la mare, la population ne se régénère pas. Voilà. Et en fait, notre connaissance de l'espèce à l'échelle de Bretagne, elle reste lacunaire. On ne sait pas exactement comment se portent les populations et quelle densité il y a. Donc, on lance cette enquête participative pour répondre à ces questions-là.
Très bien. On mettra tous les renseignements utiles, bien sûr, sur le site internet de Radio Évasion. Il faut passer, bien sûr, par le site de Bretagne Vivante. Merci beaucoup, Stéphane Louisa.
De rien.
Nous avons enchanté avec les alites et les autres. Alors cet entretien, bien sûr, vous pourrez le réécouter sur le site de Radio Évasion.